Alors nous sommes toujours en compagnie de Hervé Cottin, exobiologiste au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Alors nous avons vu qu'on peut chercher la vie sur Mars, on peut essayer éventuellement de la chercher plus tard sur Encelade, sur les planètes extrasolaires. Mais quel type de vie cherche-t-on exactement? Parce que sur Terre, finalement, bon, quand on pense à la vie, on pense à une diversité foisonnante. On pense à nous en premier, d'ailleurs, hein, des petits êtres qui marchent et qui respirent à la surface. Pourtant, sur Terre, quand même, la vie, l'histoire de la vie sur Terre, c'est essentiellement des bactéries.
Oui. Et j'ai des collègues microbiologistes qui s'insurgent quand on parle justement de chercher des extraterrestres, évoluer, faire communiquer avec eux. Ils pensent que les bactéries sont des... Moi, je suis d'accord avec eux. La vie au niveau bactérienne est aussi sophistiquée et aussi fascinante que la vie macroscopique des mammifères et même des êtres conscients comme les êtres humains. Donc oui, quelle forme de vie on cherche? Et qu'est-ce que c'est que la vie déjà? Ça, c'est une...
On a une définition claire aujourd'hui parce que c'est vraiment un débat sans fin.
Oui, c'est un débat sans fin. Mais il y a des définitions. Moi, la définition que j'aime bien, c'est de dire que la vie, c'est quoi? C'est une structure qui a la capacité de se reproduire par elle-même en commettant des erreurs de temps en temps. Alors par erreur, j'entends mutation. C'est-à-dire qu'une structure a la possibilité comme ça d'évoluer puisqu'elle va créer des copies d'elle-même et puis à un moment, dans ce processus de copie, il va y avoir une petite différence. Cette petite différence, elle sera soit favorable à un environnement donné, à un instant donné. Donc c'est cette nouvelle génération qui va se mettre à se reproduire et prendre le pas sur la précédente, ou ça va être quelque chose qui va au contraire l'handicaper, ça va disparaître. Donc c'est la théorie de l'évolution darwinienne, mais appliquée à des organismes très très primitifs. Et comme je suis chimiste à la base, c'est une définition un peu de par ma formation qui est biaisée par là. Et moi, je me dis voilà, une structure. Alors, je dis même pas molécule organique pour laisser les choses ouvertes, mais à mon avis, il y a plus de chances que ce soit basé sur une molécule organique. Les biologistes vont avoir tendance à vouloir mettre une membrane autour, donc dans ces définitions parfois on met des membranes. Les physiciens vont mettre des concepts d'énergie aussi plus en avant, mais je pense que voilà, moi de mon point de vue de chimiste d'évolution chimique prébiotique, au début on fait des réactions chimiques bien orientées, on va former telle et telle molécule de plus en plus complexe, et je pense que à partir du moment où on aura une molécule qui crée des copies d'elle-même et de temps en temps se trompe et à cette capacité d'évoluer, donc de se diversifier, de se complexifier, je pense qu'à partir de là, c'est gagné. Enfin, il suffit d'attendre quelques centaines de millions d'années peut-être, mais on a ça. La membrane, ça permet peut-être de protéger, mais je pense que le concept fondamental, il est là-dedans. Et donc, voilà, c'est ce qu'on cherche.
C'est arrivé rapidement sur Terre. Les plus anciennes traces de vie aujourd'hui, vous évoquiez 3,8 milliards d'années, je crois. C'est fixé.
Alors il y a toujours un débat dans la communauté des spécialistes suivant les. Je pense sur ces 15 dernières années, on était, je crois qu'en 95 par là, on était à 3,5 milliards d'années. Il y a une gigantesque controverse à la fin des années 80. 10, on est repassé à 2,7 milliards d'années, là ça se restabilise à 3,5, où on a vraiment des fossiles ou des structures morphologiques qui sont associées à de la vie, et autour de 3,8, c'est des choses un petit peu plus alambiquées autour de rapports isotopiques. Et on n'est pas sûr que ce soit pas de la contamination postérieure. Mais il faut se méfier, dire que, bon, on va prendre 3,5 à titre d'exemple, dire que la plus ancienne trace de vie connue est sur Terre et à 3,5 milliards d'années, ça veut pas dire que la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Si ça se trouve, elle est apparue bien avant, mais on n'en a pas trouvé de trace pour plusieurs raisons, parce que la Terre, c'est un corps actif, il y a très peu de terrains très anciens. La fossilisation, alors on trouve plein de fossiles, mais par rapport à la diversité des individus vivants qu'il y a eu sur Terre, c'est la fossilisation, c'est une promotion rare et extraordinaire. C'est la plupart des organismes vivants ne laissent aucune trace fossile, et c'est vraiment dans certaines conditions bien spécifiques qui relèvent d'un souvent du hasard que une structure va être fossilisée. Donc voilà, on n'est pas sûr de quand la vie est apparue sur la Terre. Donc on sait que c'était au moins présent il y a 3,5 milliards d'années, peut-être il y a 3,8. Alors après, pendant très longtemps, on se disait, de toute façon, ça peut pas être au-delà de 3,8 milliards d'années, parce qu'avant, il y avait les bombardements intenses sur Terre qui régulièrement stérilisaient. Donc la vie avait pu apparaître il y a 4,2 milliards d'années, mais on se prenait un gigantesque impact qui remettait les compteurs à zéro.
Et on parle pour cette fois, c'est l'AD1, c'est bien ça, hein?
C'est, oui,
Hadès,
l'AD1, oui, c'est ça. Oui. On n'a aucune... C'est cette période au-delà de 4 milliards d'années où on a quasiment aucun terrain. Alors on a des minéraux, donc des inclusions dans certaines roches qui datent de cette période, qui nous indiquent par exemple qu'il y avait de l'eau liquide, mais guère plus. Et notre vision justement de cette période a été bouleversée là depuis quelques années grâce aux travaux de gens qui travaillent à l'observatoire de Nice avec Alessandro Morbidelli. Pendant très longtemps, on pensait que le système solaire c'était un Hadès, l'enfer. Depuis sa formation, 4,5 milliards d'années, énormément de bombardements qui ont décru progressivement jusqu'à 4, 3,8 milliards d'années. Et on s'est dit qu'à partir de là, on était un peu tranquille, il n'y avait plus trop d'impact stérilisateur sur Terre. Mais en fait, les gens de Nice nous ont appris que très probablement, ce qui s'est passé, c'était une phase très intense, mais très brève au début. Et après, pendant, je dirais, entre 4,4 et 4 milliards d'années, en gros, c'était relativement calme. Et il y a eu un pic très intense autour de 4 milliards, 3,9 milliards d'années, mais sans forcément énormément d'impact stérilisateur à cette période. Donc, là maintenant... Il n'y a rien vraiment qui nous empêche de nous dire que bah, peut-être que la vie est apparue à 4,3. Mais là, je spécule complètement. Il n'y a aucune preuve qui nous dit que c'est ça ou le contraire, mais rien de vraiment fort qui nous empêche de penser ça. Donc, on est à peu près sûr qu'à 3,5, il y avait de la vie sur Terre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est apparue à 3,5. Et ça, c'est important pour Mars, parce que Mars, il y a eu de l'eau liquide, mais il y a eu de l'eau liquide jusqu'à environ il y a 4 milliards d'années. Donc voilà, si la vie sur Terre a mis un milliard d'années entre 4,5 et 3,5 pour apparaître, bah sur Mars, il n'y a pas eu le temps. Si par contre la vie apparaît plus rapidement, là on peut avoir l'espoir que la vie a pu apparaître sur Mars.
Et ça voudrait dire aussi peut-être que la vie peut apparaître relativement facilement si elle est apparue rapidement, et ça donne de bons espoirs pour les planètes extrasolaires ou...
Je sais pas si on peut faire... Il n'y a aucun moyen de dire que rapide c'est facile.
Oui,
ça a pu apparaître rapidement sur Terre parce qu'il y avait des conditions qui inimaginables ailleurs, on ne sait pas. Et en fait, ce qui est intéressant, donc tout à l'heure vous m'avez présenté en tant qu'exobiologiste, c'est vrai, enfin je fais de l'exobiologie, mais je suis chimiste. Et en fait, je fais de la chimie, de l'astrochimie, et je travaille sur des applications exobiologistes. Mais pour faire de l'exobiologie, je parlais de géologie tout à l'heure, je parlais de techniques un peu démentielles pour forer les glaces d'Europe, il faut des ingénieurs. Je parlais de détecter du rayonnement qui vient de planètes extrasolaires, il faut donc des physiciens, des astrophysiciens. Donc en fait... c'est ça qui est passionnant à l'exobiologie, c'est cette rencontre de gens qui ont des formations différentes, des disciplines différentes, et à chaque fois on est sur des choses très pointues. Il faut un géologue pour voir un truc bizarre dans une roche et se dire ça peut être la vie ou pas. Grâce à sa culture et son savoir de géologue, il faut des astrophysiciens pour décrypter les données qui nous viennent des instruments, il faut des ingénieurs pour concevoir les instruments, il faut des chimistes pour dire ah oui, là sur cette exoplanète on trouve, ah ouais, il y a plein d'ozone, c'est super, mais pas sauter à la conclusion c'est parce qu'il y a de l'oxygène donc c'est parce qu'il y a de la vie. Il faut qu'il y ait des chimistes qui se disent voilà, dans ces conditions particulières de rayonnement, de composition planétaire, est-ce qu'on peut pas expliquer la présence d'ozone par d'autres moyens? Donc il faut être il faut cette rencontre et qu'on soit capable de se comprendre Parce que quand on sort d'une filière de chimiste, qu'on n'a jamais fait de géologie et qu'on rencontre un géologue au bout de plusieurs années de pratique, bah, au début, on n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Il faut apprendre à se comprendre. Mais c'est ça qui est intéressant.
Alors, vous êtes d'ailleurs membre de la Société française d'exobiologie. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un endroit où vous vous faites rencontrer justement des chimistes, des géologues.
Oui, justement, c'est depuis la fin des années 90, il y avait une structure en France qui émanait du CNRS, qui s'appelait le GDR, groupe de recherche GDR d'exobiologie, qu'on devait renouveler tous les 4 ans pour avoir les financements du CNRS. Et là, la communauté qui a été construite grâce à ce GDR a décidé de créer une association, une société savante, où justement son objectif, c'est de coordonner, d'inciter les recherches interdisciplinaires autour de questions relevant de l'exobiologie. Donc l'exobiologie, c'est la recherche de l'origine de la vie sur la Terre, la recherche de la vie ailleurs. Et donc c'est faire un peu la promotion de des actualités scientifiques autour de l'exobiologie, de la communauté française, créer des ateliers où on se rencontre pour discuter de problèmes particuliers. Au mois de septembre, on s'est retrouvé à Biarritz pour faire une semaine de congrès où justement on a une journée d'astro, une journée de géologie, une journée de chimie, mais on était tous là, c'est-à-dire que les chimistes écoutaient les géologues qui écoutaient les astrophysiciens et ça crée des échanges. Il y a aussi des sciences humaines aussi qui sont intéressantes. Cette notion de définition de la vie, ça relève aussi de sciences humaines. Donc c'est un des objectifs de la Société française d'exobiologie. Donc on a un site internet qui est www.exobiologie.fr où vous pouvez trouver de l'actualité. On essaye de répondre aux jeunes étudiants qui se disent comment est-ce qu'on devient exobiologiste. Ça, c'est une question qui nous est posée souvent à tous. Donc maintenant on a mis une page sur le site de la SFE où on essaye de répondre à ces questions. Il y a un forum où les gens peuvent poser des questions, on essaye de répondre pour les orienter. On essaye aussi d'animer des formations pour les étudiants qui sont en thèse, pour les sensibiliser à ces questions d'exobiologie. Et j'en profite, on participe à l'organisation d'un grand colloque qui aura lieu à Montpellier en juillet l'année prochaine, qui s'appelle Origins 2011. Donc il y a un grand colloque international d'exobiologie.
En juillet 2011.
Ouais, juillet 2011, et on est en plein dans la préparation, les inscriptions, et c'est la Société française d'exobiologie qui a pris en charge en grande partie la partie locale d'organisation, la conception du site web, l'alimentation, la gestion des inscriptions. Donc voilà, c'est vraiment faire vivre cette activité scientifique, l'animer pour, je l'espère, encore beaucoup d'années. Voilà.
Et pour continuer à se poser cette question, la vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre ? On peut peut-être répondre oui à cette question. La vie est-elle apparue ailleurs que sur la Terre ? Il faudra suivre un prochain podcast.
Oui, ça, on n'en sait rien. Voilà. Rien n'empêche de l'espérer, mais on ne peut pas l'affirmer.
Merci Hervé Cottin.
Merci.